RFI.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est un véritable casse-tête avec une population jeune qui devrait doubler d'ici 2050. L'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne est confronté à un problème complexe. Comment accompagner le développement de leurs villes qui connaissent des rythmes de croissance qui sont les plus rapides du monde? Lagos et Kinshasa, par exemple, devraient abriter chacune plus de 20 millions d'habitants d'ici 2030. La question du transport est particulièrement complexe. 80% des citadins africains ne possèdent pas de véhicule. Ils dépendent donc de l'offre. Alors quelle est la meilleure stratégie à adopter pour non seulement fluidifier le trafic, mais aussi pour limiter la pollution? Antananarive, la capitale malgache, a inauguré cette semaine son téléphérique urbain, un mode de transport efficace pour désenclaver des quartiers isolés, mais qui implique de nombreuses contraintes, comme vous le découvrirez dans un instant grâce au reportage de Samuel Turpin sur le Papang, le téléphérique lancé il y a 2 ans sur l'île de la Réunion. Mais est-ce vraiment une solution à dupliquer? Nous en parlons tout de suite avec notre invité.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Jean-Jacques Éluin.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Lyon, dans le sud-est de la France. Vous êtes le délégué général de CODATU, que je vous laisse nous présenter.
Oui, CODATU, c'est une ancienne association qui a été créée en 1980 à Dakar, au moment de la première conférence internationale sur les transports urbains. CODATU, ça veut dire coopération pour le développement et l'amélioration des transports urbains. Et on regroupe différents types de membres, des universitaires, des entreprises, des autorités publiques, des bénévoles, pour essayer d'accompagner les villes des pays en développement en matière de mobilité urbaine durable. Donc c'est un vaste programme depuis 1980, mais depuis une dizaine d'années, on est vraiment beaucoup plus sur le terrain auprès des acteurs locaux.
Alors, est-ce que pour résumer, vous diriez que c'est un véritable casse-tête sous pression?
Oui, on peut dire ça. En même temps, c'est vrai que l'Afrique est en plein dans sa transition urbaine. Mais il y a des continents plus anciennement urbanisés qui ont connu ce même casse-tête. L'Amérique du Sud, qui maintenant est à peu près complètement urbanisée, et plus anciennement, évidemment, l'Europe, l'Amérique du Nord. En Afrique, les chiffres classiques, c'est qu'on va avoir 900 millions d'urbains en plus d'ici 2050, donc des villes qui grossissent. Vous avez cité les plus grandes villes, Kinshasa, Lagos. D'ailleurs, je vous signale que Lagos a déjà dépassé 20 millions d'habitants. Lagos augmente de plus d'un million d'habitants par an. Donc ça va très vite. Là, on est à 23 millions, ça c'est les données d'il y a quelques mois. Donc ça va très vite. Et ces villes vont dépasser, c'est certain, 40 millions d'habitants en 2050. Mais là, c'est les plus grandes villes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est surtout dans les villes moyennes que cette croissance se fait. Donc des petites villes entre 100 000 et 1 million d'habitants qui, un peu partout en Afrique, sont en train de se développer encore plus rapidement. Donc cette transition urbaine, elle est en cours, à rythme très rapide, et elle pose évidemment d'énormes problèmes, notamment le problème des infrastructures urbaines, qui supposent des investissements très importants, et notamment en matière de transport. Et c'est le sujet que je vous propose de creuser ce matin.
Alors nous étions récemment à Abidjan. Le sociologue Youssouf Maïté, qui est chercheur à l'université Fouette-Boigny, nous expliquait que cette ville abrite environ 6 millions de personnes. Là aussi, les chiffres sont difficiles à estimer, mais ça implique quand même apparemment plus de 10 millions de déplacements par jour. Les embouteillages sont la règle, alors que les Abidjanais dépensent en moyenne le tiers de leurs revenus en carburant ou en transport en commun et qui peuvent passer entre 4 et 6 heures par jour dans les transports. Est-ce que, selon vous, cette situation est emblématique ?
Oui, ce que vous citez, c'est assez classique. C'est ce qu'on cite aussi pour Lagos, par exemple. Il y a eu quelques grandes études qui ont été faites par la Banque mondiale, par exemple, sur le coût du PIB, en termes de pourcentage du PIB, de la congestion des grandes villes. Au Caire, en Égypte, cette étude montrait que c'était plus de 3% du PIB qui était perdu dans la congestion. Et quand on chiffre comme ça, on ne calcule pas le coût de la pollution sur la santé humaine et l'impact sur le changement climatique. Je voulais juste rappeler que à peu près 75% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde viennent des villes et qu'évidemment, le secteur du transport pèse très lourd dedans, de l'ordre d'un tiers. Et c'est un secteur en croissance en termes d'émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il y a d'autres secteurs qui diminuent. Donc, l'impact, il est sur l'économie, il est sur la santé, mais il est aussi sur le climat. Et si les taux de motorisation des Africains explosent, comme ça commence à être le cas, le problème est énorme, pas seulement pour les pays africains, mais pour la planète dans son ensemble.
Alors, il y a beaucoup de projets en cours hein, que vous accompagnez, d'ailleurs, dans les villes d'Afrique subsaharienne. Alors, je ne sais pas, on peut peut-être prendre quelques exemples. Dakar, par exemple, est une ville très active dans ce domaine.
Oui, alors il faut distinguer les grandes villes qui sont particulièrement dynamiques sur ce sujet, comme Dakar, et ce qui se passe à d'autres niveaux de la hiérarchie urbaine. À Dakar, qu'on cite beaucoup en ce moment, effectivement, il y a le TER qui fonctionne, il y a le BRT qui...
Alors les acronymes, pour ceux qui ne connaissent pas TER et BRT, est-ce que vous pouvez détailler cela ?
Le train express régional, voilà, c'est un train urbain, et le BRT, effectivement, c'est l'acronyme anglais pour dire bus rapide transit. En français, on dirait bus à haut niveau de service, c'est-à-dire un bus en site propre qui permet d'avoir des débits très importants. Donc celui de Dakar est particulièrement emblématique parce qu'il est 100% électrique. Donc là, on est vraiment, je dirais, sur les projets les plus avancés sur le continent africain. Abidjan, évidemment, un projet de métro qui est en phase finale, et aussi des projets de BRT comme des grandes villes comme Lagos et Nairobi.
Alors, bus en site propre, ça veut dire que les bus ne sont pas au milieu des autres voitures, c'est cela ?
Voilà, c'est qu'ils sont sur des voies séparées, ce qui leur permet d'avoir une vitesse beaucoup plus rapide, une vitesse moyenne beaucoup plus rapide, et de passer au milieu des embouteillages. Donc c'est évidemment une solution qui à l'origine vient d'Amérique du Sud, hein, depuis une vingtaine d'années, parce qu'en Amérique du Sud, ça a apporté des solutions extrêmement importantes et à coût raisonnable. Donc c'est certainement une grande catégorie de solutions pour des grandes villes en Afrique, hein, ce qu'on appelle donc le BRT. Mais évidemment, ce n'est pas la seule, il existe une multitude de modes. Et ce qu'il faut voir, c'est que la mobilité, c'est un système. Et donc l'important, c'est de bien gérer l'interface entre les différents modes, y compris les modes actifs, c'est-à-dire la marche, le vélo, ça commence comme ça. Les systèmes de bus classiques, les systèmes de bus en site propre, et après ce qu'on appelle les modes plus capacitaires, que sont par exemple les tramways ou les métros, ou le câble dont on parlera tout à l'heure.
Alors à Niamey et à Ouagadougou, la situation est différente ?
Voilà, donc ça c'est des villes qui sont dans des situations plus basiques de mobilité et qui sont plus représentatives de ce qui se passe sur le continent africain. C'est des villes à Niamey où le transport artisanal est hyper dominant. Ce qu'on appelle le transport artisanal, c'est à Niamey, c'est les Faba-Faba notamment, c'est-à-dire des minibus ou du taxi partagé. C'est le mode hyper dominant aujourd'hui en Afrique. Donc pour Kodatu, c'est le sujet majeur, c'est d'améliorer le transport artisanal. Beaucoup de pays ont essayé de supprimer, d'éradiquer le transport artisanal parce qu'ils le considéraient comme informel, illégal. Maintenant, tout le monde est à peu près d'accord, aussi bien chez les spécialistes que chez les gouvernements, pour dire bon, l'enjeu, c'est d'améliorer progressivement ces systèmes-là parce qu'ils sont là pour la durée. Donc, c'est ce que fait Kodatu actuellement à Madagascar dans un projet pilote sur les taxis B, c'est-à-dire les minibus dans Antananarivo.
Est-ce qu'il y a des villes du Sud, hors Afrique, qui montrent l'exemple ?
Bien sûr, il y a des villes qui ont beaucoup inspiré ces dernières décennies. On le verra tout à l'heure sur le câble à La Réunion, mais des villes colombiennes, notamment Medellín et Bogota, ont été très à la pointe en matière de développement du câble urbain. Mais des villes brésiliennes et aussi colombiennes ont développé les BRT, donc les bus en site propre, depuis très longtemps. Ça a été des solutions efficaces qui inspirent aujourd'hui pas mal, notamment en Afrique et ailleurs. Donc, on peut citer comme ça un certain nombre de villes, de même que sur les modes actifs, parce que je ne voudrais pas qu'on se focalise que sur les transports en commun. Il y a la marche et le vélo, où il y a aussi des villes qui ont montré l'exemple depuis longtemps, aux Pays-Bas par exemple, sur le vélo.
Alors, il y a des nouveaux projets qui émergent, vous l'évoquiez, hein, comme le développement des métro-câbles, que l'on appelle aussi des téléphériques. C'est le choix qui a été fait pour désengorger les embouteillages de Saint-Denis, la principale ville de l'île de la Réunion dans l'océan Indien.
Justement, les conditions de circulation ce matin avec Dolène de la direction régionale des routes. Bonjour Dolène.
Bonjour Francky, bonjour à tous. Eh bien écoutez, on va partir dans l'Est pour commencer avec un bouchon d'entrée Est de Saint-Denis qui va englober les zones de la Ravine des Chèvres jusqu'au front de mer avec quelques zones roulantes, mais c'est vrai qu'elles ont tendance à se faire rares.
Nous avons éprouvé ces embouteillages avec François Porcheron quand nous sommes allés faire des reportages à La Réunion et c'est vrai que c'est un enfer. Mais il y a 2 ans, ils ont lancé le premier téléphérique urbain de France. D'autres villes ont d'ailleurs suivi l'exemple depuis. Un peu moins de 3 km de câbles et 5 stations pour relier les bas de la ville et les hauts quartiers construits sur les pentes. Un moyen de mobilité doux, fiable, rapide et éco-responsable qui transporte actuellement 6000 usagers par jour. Mais ce n'est pas tout, le téléphérique permet aussi de désenclaver des quartiers, de développer une nouvelle économie et une mixité sociale. C'est un reportage de Samuel Turpin que nous retrouvons au cœur de la ville de Saint-Denis, place Chaudron. Il a rendez-vous devant la station téléphérique avec Jean-Pierre Marchaud, directeur de la Cynor.
Alors ça c'est des rochers coco, c'est fait maison. Hein. Et là vous avez gâteau manioc, bonbon millet aussi. Là, vous avez des galettes bretonnes, c'est au confit de pamplemousse.
Des galettes bretonnes à La Réunion ?
Ben oui, j'en avais d'ailleurs ce matin, mais là, il n'y en a plus. Vous venez trop tard.
Voilà. Merci beaucoup, bonne journée.
Très bonne journée, merci.
Voilà, ça fait partie des petites rencontres qu'on fait quartier Chaudron.
Voilà, c'est exactement, tu fais un peu l'ambiance qu'il y a et qu'on espère conserver autour de cette gare un peu qui révolutionne les mobilités. L'enjeu pour nous, c'est de conserver ce lieu convivial, agréable à vivre, et puis modernité dans les mobilités. Parce que jusqu'ici, il faut bien le dire, les gens du Chaudron, qui sont un milieu populaire, n'avaient pas le moyen d'acheter une voiture, et donc tous étaient tributaires du bus, et le bus était un peu défaillant, il faut bien le dire.
Alors, Chaudron, on est en bas, hein, on est au bord de la mer.
Voilà, en fait, c'est la station de départ de ce qu'on appelle les bas, et donc on a cette trilogie sociale hein, du centre-ville, du débat avec le Chaudron, l'hémipente, avec des institutions, des lycées, l'université, etc. Puis Léo, avec un quartier plus résidentiel que tu verras tout à l'heure. Et l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à relier ces trois milieux sociologiquement, sans qu'il y ait de rupture, puis pouvoir se déplacer rapidement.
Un autre enjeu, en effet, c'est la mobilité. On est dans un milieu insulaire, où il y a une très forte démographie. Est-ce qu'il y a une saturation aujourd'hui du trafic automobile ?
Oui, parce que La Réunion est une île montagneuse. Donc, mis à part la bande littorale où on pouvait se déplacer à une époque sans problème, aujourd'hui, vu la configuration de l'île, la mobilité est liée au fait qu'il n'y a pas peu d'espace pour se déplacer, il n'y a que des routes, en sachant que le grand problème à La Réunion, c'est l'emprise énorme de l'automobile qui s'est développée depuis 20 ans, et le fait qu'à peu près un Réunionnais sur trois n'a pas accès à l'automobile pour des raisons financières, et donc est tributaire de transports bus, qui eux-mêmes, étant dans la circulation, sont pris dans les embouteillages.
On l'a vu ce matin, hein, quand je viens vous rejoindre. Voilà. Beaucoup de trafic, hein, c'est très dense. Il y a 2 boulevards périphériques autour de la ville, hein, ouais. Le boulevard littoral au bord de la mer et ce qu'on appelle le boulevard sud, le boulevard Jean Jaurès.
C'est très, très compliqué.
Ce téléphérique, on l'appelle ici Papang.
Alors Papang, c'est un oiseau de proie qui est réputé ici. C'est l'image de l'oiseau bon, qui est aussi menacé par le développement de l'agriculture, des pesticides, etc. Et je crois que c'est ça la symbolique de Papang. Les Réunionnais qui habitent sur le territoire sinon, d'essayer de conquérir par la voie des airs une mobilité qu'ils auraient refusée sur la route.
On y va ? On va le prendre ?
Allons-y.
Jolie station avec une petite gare routière. On a un hub de bus qui font les liaisons.
Exactement. Vous ne pouvez pas faire un téléphérique sans qu'il y ait une articulation avec les transports en commun. Voilà pourquoi il y a cette petite gare routière qui permet aux gens qui descendent soit travailler ici, soit qui viennent au marché.
Bonjour, merci de sortir du niveau sur le piscine.
On y va, zone de montée. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va faire attention hein, parce que la cabine elle s'arrête pas.
La cabine elle ralentit dans la station. Voilà.
Tu vois que ça va très très lentement. Donc du coup même quelqu'un qui est en fauteuil roulant peut monter.
On
Vous avez beaucoup de personnes handicapées qui prennent le téléphérique ?
Oui, on a des habitués qui sont à Bonne-Neuf et qui descendent souvent au marché forain ou qui vont en ville. Donc ils sont très contents parce qu'ils nous disent souvent qu'avant le téléphérique, ils n'avaient pas beaucoup de moments pour descendre dans les bars. Après, les cabines, elles passent tous les 40 secondes. Donc ça va vraiment plus vite que le bus.
Et on est en haut en combien de temps ?
Alors, pour monter, c'est 15 minutes à peu près.
Eh ben, on y va. Merci.
Tu as vu qu'il a évoqué les habitués. 80% des usagers sont des gens qui sont abonnés. On a fidélisé assez rapidement une population qui a adopté ce mode de déplacement. Et ça nous a rassurés parce que je te dis, il y a 3 ans, on a essuyé beaucoup de plaisanteries du style, effectivement, le téléphérique c'est pour la montagne, ici on est en milieu tropical. Et les gens, plein de gens ne croyaient pas que ça marcherait.
Alors on a un petit peu de vent, hein, parce qu'en ce moment il y a du vent à La Réunion, mais la télécabine, elle bouge pas.
Non, elle bouge pas. Et puis bon, tu as cette vue merveilleuse, hein, moi j'ai surnommé le téléphérique. Au-dessus de nous, on voit l'université, donc la science, lettres, quelques terrains de sport pour les étudiants.
Tout un axe d'éducation en fait, hein. Il y a entre l'université et tous les lycées, voilà. Et les collèges qui sont postés, voilà, sur l'axe.
Et là on est en train de passer au-dessus du lycée Memmoline-Dierman, qui est un grand lycée dédié aux arts audiovisuels notamment. Côté ouest, sur ma droite, tu as le collège de Bois de Nèfle. Voilà pourquoi on peut voir des collégiens, des lycéens et des étudiants, puisque un peu plus bas, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a l'université. Et pour moi, je suis là à La Réunion depuis 34 ans, tout cela n'existait pas à l'époque, hein. C'était des champs de canne.
Et là, on survole le quartier de Moufia, c'est l'un des plus denses de Saint-Denis.
Oui, c'est un quartier très dense. Il y a Sainte-Clotilde qui est un petit peu plus en bas, le Chaudron, et puis le quartier de Moufia, dans la continuité. Voilà la station du Moufia.
À quel moment on a pensé un projet de téléphérique à La Réunion ?
C'est l'ancien maire socialiste de Saint-Denis, Gilbert Annette, qui, avant 2014, a eu l'idée d'étudier la possibilité de faire un téléphérique. Et donc, une délégation de la mairie de Saint-Denis est allée à Medellín, en Colombie. J'ai moi-même rencontré, il y a 3 ou 4 ans, le maire de Medellín, qui nous a montré, par A plus B, que le téléphérique permet, donc, dans les Andes, de gagner les faubourgs de Medellín, au centre-ville de Medellín. Ce téléphérique est adopté par tout le monde. La population s'est appropriée le transport par câble. Et surtout, l'intérêt, c'est que là où, avant le téléphérique, un habitant des faubourgs de Medellín mettait à peu près 90 minutes pour aller au centre-ville et payer 1,18€ environ, aujourd'hui, il le fait en 30 minutes et pour 55 centimes d'euros. Et ça nous a convaincus que nous pouvions lancer ce type de projet. Voilà, après, il a fallu vaincre un peu les préjugés, hein, puisqu'on a eu beaucoup de moqueries au départ sur l'idée de faire un téléphérique urbain. Bah, c'est un téléphérique urbain, hein. La différence, un téléphérique de montagne, ça ne sert pas à aller faire du ski ou du sport, ça sert d'abord effectivement à se déplacer pour aller travailler, pour aller faire son marché, pour aller à l'école, au lycée, etc. Et je pense qu'on doit être très fiers à La Réunion d'avoir le premier téléphérique urbain qui a été inauguré en France. Et c'est une réussite non seulement sur le plan quantitatif, puisque un peu plus de 2 ans, nous allons vers les 3 millions de voyageurs, c'est quand même beaucoup. Parce qu'on ne pensait pas arriver à 6 000 voyageurs jour, voire 7 000. Dans l'immédiat, on pensait qu'il faudrait un certain nombre d'années avec une accoutumance. Mais surtout, moi, je mets l'accent sur la réussite qualitative. Parce que dans ce téléphérique, on trouve aujourd'hui des employés, des étudiants, des ouvriers. Voilà. Il y a une mixité sociale qui n'existe pas dans les bus. Tout simplement, dans les bus, ce qu'on appelle une clientèle captive. Les gens qui prennent le bus le prennent parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose.
On subit,
on se bouscule s'il y a du monde. La personne se bouscule parce qu'on sait que la cabine arrive. C'est vraiment une mobilité qui déstresse, hein, qui fait qu'elle est apaisante.
On vient de l'entendre, la petite voix vient de nous le dire. On arrive à la station de Bancoul. On va descendre ici, on va rencontrer la directrice d'exploitation.
Voilà, on va rencontrer Karine Elrotel, qui est la directrice de la société d'exploitation. Bonjour Karine.
Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour Karine.
Bonjour.
On parlait à l'instant de téléphérique en montagne. Je crois que c'est votre ADN, la montagne.
Tout à fait. Moi, j'ai grandi depuis l'âge de 16 ans dans les remontées mécaniques, dans les domaines skiables.
On vous suit ?
Eh bien, suivez-moi.
Vous nous emmenez où ?
Dans le garage.
Alors, la station de Bancoul, elle a cette particularité, c'est qu'en fait, elle sert également de garage.
Exactement. Exactement, on peut stocker 46 cabines et on les rentre donc tous les soirs. On les sort tous les matins. On a une grande porte ici qui nous permet de...
Qui est devant nous là.
Oui, qui nous permet de faire entrer et sortir ces cabines. Donc on a tout un système mécanique d'aiguillage sur des rails qui nous permettent d'entraîner les cabines dans le garage, qui est automatique en plus, donc c'est un vrai plus.
Pourquoi on rentre les cabines? On a peur du vent?
Alors non, la principale raison, c'est pas du tout le vent, c'est le risque d'incendie, parce qu'on passe au-dessus quand même de maisons, de routes. Si jamais vous avez une voiture, un camion qui peut prendre feu, on a une distance de sécurité, c'est sûr. Mais des fois, les flammes, on les maîtrise pas complètement au niveau de la hauteur.
Vous qui avez l'habitude de l'exploitation en montagne ou ici en milieu urbain, quelles sont les principales différences ?
La première chose déjà, c'est qu'on ne transporte pas des clients, mais on transporte des usagers. Ça, c'est quand même important parce que du coup, la relation sociale n'est pas du tout la même. Quand vous êtes au ski, les clients sont là pour profiter à fond des pistes, pas de l'installation. Alors qu'ici, c'est un vrai moyen de transport. On les rencontre quotidiennement, on les connaît, on sait aussi leurs craintes, donc on essaye aussi de les rassurer. Après, on a des périodes de maintenance qui sont beaucoup plus courtes. En domaine skiable, quand vous fermez le domaine pendant 6 mois, ça vous permet d'être un peu plus tranquille au niveau des plannings.
Tout à l'heure, en bas, hein, votre collègue qui nous a guidés vers les cabines nous disait « Attention, la cabine, elle ne s'arrête pas ». Quelles étaient les craintes au départ des usagers ?
Alors, tout à fait, ça faisait partie des craintes, le fait que la cabine ralentisse mais ne s'arrête pas dans les stations. Il y avait effectivement le fait d'être en l'air, pendu. Il y avait les personnes dans la mobilité réduite qui avaient aussi effectivement cette incertitude de savoir s'ils pouvaient ou pas la prendre. Dans ces cas-là, on arrête l'installation pour ne pas prendre de risques. Il y avait les craintes des riverains aussi par rapport au bruit, tout ce qui était visuel. Et maintenant, je pense que ça se passe plutôt très très bien avec les riverains. On va faire juste attention parce qu'on est en train de déplacer les cabines dans le garage justement pour les positionner pour le cyclage de ce soir, donc il faut se reculer un tout petit peu.
Oui, on va faire attention hein, et en bout de chaîne là-bas, il y a un second aiguillage qui permet de faire rentrer les cabines sur une plateforme et d'assurer l'ensemble de la maintenance. Merci Karine de cette visite dans le ventre, dans les coulisses de Papang. Nous on va poursuivre notre ascension vers les hauts de Saint-Denis. Jean-Pierre, tu es le guide.
La Réunion est un petit pays, il est dans la mer. Si son cœur allait bien faire. La Réunion est un petit pays, il est dans la mer. Si son cœur allait bien faire. Un jour un pétard marin, la troupe racadonne, cyclone, son blessure, un petit l'Écosse, la montagne plie son rein, au soleil, chauffe son dos, dans son cœur, les prix bondissent, au béton. La grandi, de monde partout, la trouve la vie. Zodit, il est comme ça, la grandi, de monde partout, la trouve la vie. La montagne, les filles sont reins, au soleil, il chauffe son dos, dans son cœur, les prix bondissent, au béton.
On voit un usager hein, qui sort de la cabine avec son vélo.
Voilà, avec son vélo, on peut rabattre les banquettes pour mettre un vélo, voire deux. Vous êtes au collège ?
Oui.
Vous allez où ? Quel collège ? Bois-de-Neuf, d'accord.
On ouvre les portes.
Oui, avant que ça se fasse.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Bonjour.
Asseyez-vous en face pour l'équilibre.
Comment tu t'appelles ?
Moi, je m'appelle Anthony.
Vous prenez souvent le téléphérique ?
Surtout quand je sors des cours, je prends le téléphérique pour remonter chez moi. ou aller chez ma mamie.
Avant qu'il y ait le téléphérique, tu pouvais faire ces déplacements tout seul?
Non, vraiment pas. Mes parents, bah, soit ils devaient me déposer, soit je devais prendre le bus, sauf que le bus là-haut, il passe toutes les 20 minutes, c'est une horreur.
Madame.
Bonjour, oui.
Vous utilisez ce téléphérique souvent?
Oui, souvent, tous les matins. Bon, je travaille ici, donc tous les matins, toute l'après-midi comme là. Et après, je redescends tout à l'heure pour refaire mon travail, après je remonte.
Ça vous a pas fait peur la première fois?
Non, quand il y a un petit peu de vent, oui, mais après, ça va.
Comment vous faisiez avant?
Le bus.
Et c'était plus compliqué en bus?
Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que des fois, le bus n'est pas à l'heure, sinon il est en panne.
Est-ce que vous descendez aussi pour le marché de Chaudron?
Le dimanche, ben oui.
Madame,
bonjour.
Avec les deux petites filles, bonjour.
Bonjour.
Vous utilisez le téléphérique souvent?
Oui, pour faire mes courses. Moi, c'est plus Chaudron. Parce qu'avant, il y avait un seul bus pour tous les habitants. C'est tout le dimanche, il n'y avait pas.
Le dimanche, on peut sortir voilà. Maintenant, hein, parce que bon, ben, y a plus de bus en ville qu'ici en haut.
On ne peut pas sortir le dimanche. On va sortir.
Voilà, on arrive à Bois-de-Neuf, le terminus qui est dans les hauts, comme je disais tout à l'heure, et il fait plus frais. On va chercher un peu le calme et la fraîcheur. Là, on arrive, Bois-de-Neuf.
Merci, mesdames.
Merci.
Et on va rencontrer.
On va rencontrer Audrey Véline, qui est l'élue du secteur, qui est aussi sénatrice de La Réunion, qui va certainement pouvoir nous dire l'impact que ça a sur ce petit quartier de Bois-de-Neuf. Bonjour Audrey.
Désolée du retard. Ça va Jean-Pierre?
Très bien.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien et vous-même?
Très bien, merci. Désolée pour le retard.
Le trafic?
C'est le trafic. Voyez-vous, il est utile ce téléphérique. Hein, parce que si j'avais été moins égoïste et si je n'avais pas pensé comme avant à savoir que je serais arrivée plus vite en voiture, je me serais stationnée au Chaudron et je serais arrivée ici en moins de 10 minutes au lieu de prendre 20 minutes, 30 minutes. Quoi.
Et vous auriez fait des belles rencontres dans
Exactement.
Les nacelles comme on a pu en faire.
Exactement.
Et il y a deux ans, comment le téléphérique a été accueilli par les habitants de Bois-de-Neuf?
Le téléphérique, au départ, je ne dirais pas qu'il n'était décrié, mais il y avait des curiosités et il y avait beaucoup de craintes. De craintes parce que ben, ce n'est pas commun d'avoir un transport collectif qui déplace les personnes au-dessus des toits, au-dessus des jardins et des terrasses. On avait peur du bruit autour des stations, on avait peur des chutes de cabines, des jets d'objets. On avait peur que les cabines puissent servir à quelques voyeurs qui aimeraient cambrioler, faire des repérages. Et puis par la suite, quand ce téléphérique est intervenu, on a fait tout un travail avec les quartiers, avec les associations, avec les parents d'élèves, avec les écoles, avec les collèges, avec les lycées, avec nos seniors, pour qu'ils vivent l'expérience. Et ça nous a permis finalement de encore plus apaiser cette inquiétude, voire de les réduire pratiquement à néant.
Et au-delà de la mobilité, de faciliter la mobilité des résidents, l'un des objectifs, c'est aussi de désenclaver des quartiers, d'offrir des services de proximité et de drainer une véritable vie autour de ce téléphérique.
Exactement, parce qu'on est en train de vouloir ramener de l'économie dans les quartiers et donc ça va permettre à peut-être des porteurs de projets de venir s'installer, proposer des repas, des terrasses, etc. Donc on habille nos stations avec des services différents, des services qu'il n'y avait pas. Puis on a la serre pédagogique finalement qui est un chantier d'insertion permanent où les gens travaillent tout ce qui est l'environnement paysager et grâce au téléphérique, eh bien, cette serre pédagogique est devenue connue. Donc on vient jusqu'à la serre pédagogique pour demander une petite bouture de Bois-de-Neuf ou de Moufia. On peut aller récupérer des plantes endémiques de La Réunion et les faire pousser chez soi. Un peu plus bas à Bancoul, vous avez vu, on a un petit village éco-box. Vous avez
une place de marché aussi.
Vous
hein.
avez une place des marchés artisanales de Bancoul. Et pourquoi pas un marché bio? Ouais, c'est ça, des légumes longtemps. Vraiment un marché différent, parce qu'on a quand même deux marchés positionnés sur cette trajectoire. On ne va pas fragiliser quelque chose de déjà installé en mettant quelque chose de concurrentiel. Donc on peut développer d'autres idées. On a une petite place de spectacle à ciel ouvert. C'est hyper qualitatif, le téléphérique. Au-delà d'être hyper inclusif, parce qu'on permet aux personnes qui habitent les Hauts-de-Saint-Denis, qui prennent d'habitude 30, 45 minutes, une heure pour arriver à la centralité, aujourd'hui ils le font en moins de 20 minutes. Mais surtout, ça permet de s'ouvrir à la modernité.
Et de gagner du temps pour soi aussi.
Et de gagner du temps pour soi et de diminuer le stress parce que finalement, en voiture, on est hyper stressé.
Voilà. Ce quartier de Bois-Neuf, là, avant d'être un quartier historique, c'était un quartier agricole.
Exactement, c'était un quartier agricole. Vous voyez le nom des rues, Chemin des Cannes, Bois de Pintade, Bois de Camphre. On a vu au fil du temps venir s'installer dans ce quartier paisible d'autres populations.
Et on fuit le centre-ville.
Exactement, on vient à Bois-Neuf pour une qualité de vie, pour un cadre de vie, pour cette espèce de vivre ensemble, tranquille, à part le bruit des enfants là à côté de nous. On n'a pas de bruit de voiture, on n'a pas de klaxon, on n'a pas de bruit industriel, d'usine, il fait bon. Mais en même temps, on peut être frustré de ne pas avoir accès rapidement aux services. Donc l'intérêt du téléphérique, ça avait été de l'expérimenter sur justement une population mixte. Et finalement, on voit que ça fonctionne pour tout le monde. Tout le monde se mélange dans le téléphérique et personne ne craint de se mélanger dans le téléphérique.
Et cette vue sur la mer.
C'est une magnifique vue. On l'a vue depuis le littoral jusqu'au phare Sainte-Suzanne. La plus belle vue de Saint-Denis, elle n'est pas à la montagne. La plus belle vue de Saint-Denis, elle est à Bois-de-Neuf.
Merci Audrey.
Je vous en prie.
Si t'as le pass, tu passes tranquille.
Citalis s'équipe de nouveaux titres de transport plus modernes et surtout plus pratiques. Le nouveau geste facile et rapide. Je présente ma carte, mon ticket ou mon M-ticket dans le valideur. Si t'as le pass, tu passes tranquille.
Citalis, le réseau de transport urbain de la Cinor.
Merci de valider le titre de transport.
Ce circuit, il passe par l'université, il passe par des lycées, par des collèges. Hein, c'est un vrai axe culturel et éducatif. Mais dans l'histoire de la Réunion, c'est aussi un autre circuit, un autre voyage.
Oui, c'est ce qu'on appelle le circuit du marronnage, puisqu'à la Réunion, les marrons sont les esclaves qui se sont enfuis, qui ont repris leur liberté, et notamment dans la toute première phase de la colonisation de fin 17e, et il y a eu des petites communautés d'esclaves marrons qui sont installées dans les hauts. Donc c'est dans l'imaginaire de la Réunion, c'est très important, ces lieux, les ravines aussi, hein, qui sont protectrices. Le marronnage, il commence après, au-delà de cette montagne que tu vois. Dans le cirque, il y a 3 cirques à la Réunion, qui sont encore très difficilement accessibles aujourd'hui, qui à l'époque l'étaient quasiment, où se réfugiaient les marrons pour se protéger, avec des femmes, enfants, familles, reconstituer une sorte de contre-société, libre, égalitaire, voilà, avant d'être persécutés par les tristement célèbres chasseurs de noirs qu'envoyaient les propriétaires d'esclaves pour les capturer, voire les tuer. Voilà.
Et d'ailleurs, ces cirques portent le nom de marrons.
Voilà, le piton en chêne, Simon Def, ce sont des noms d'esclaves marrons. N'oublions pas que quand l'esclavage a été aboli en 1848, 52%, c'est énorme, de la population était en état d'esclavage. C'est quand même une fracture, un traumatisme natif, historique, sur lequel il faut travailler, revenir. Mais on voit qu'aujourd'hui, que la société réunionnaise est apaisée néanmoins. Et voilà, donc c'est un thème très très important. Le marronnage à la Réunion, parce qu'il y a un travail qui est fait par les historiens aujourd'hui, par les jeunes générations, qui veulent savoir ce qu'étaient ces communautés, ces, que vont dire les royaumes marrons.
Et Jean-Pierre, au cours de l'histoire, les hauts de Saint-Denis se sont également appelés les villages changement d'air.
Voilà, les villages changement d'air, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la bonne société créole, au fur et à mesure les grandes chaleurs montaient dans les hauts.
C'était quelle époque ?
Au changement d'air, on va dire que c'est le 19e siècle environ. Et jusqu'à peu près à la moitié du XXe siècle, à l'époque, il n'y avait pas de climat.
Puis il y a déjà les chaleurs en centre-ville, hein, sur le littoral.
Qui sont très importantes. Et donc, on montait, soit on avait une case, parce qu'une case, c'est une maison, hein, mais d'autres, c'est de simples maisonnettes, tout simplement. Donc, tout le monde montait, on a tout essayé de monter pour fuir la chaleur. Mais c'est resté une tradition, effectivement, lors des grandes chaleurs, d'aller pique-niquer en forêt.
Alors, est-ce que cette première expérience Papang a donné des idées? Est-ce que ça donne lieu à de nouveaux projets de téléphérique?
Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que d'autres projets naissent. D'ailleurs, tu vois derrière toi, à l'ouest, la montagne, il y a beaucoup d'habitations. C'est beaucoup plus résidentiel même qu'ici. Il n'y a qu'une petite route qui serpente pour descendre, qui est tout le temps bloquée. On va, je pense, l'an prochain, donner le premier coup de pioche du téléphérique de la montagne, qui consistera à descendre de la montagne jusqu'au boulevard sud, avec ensuite des fameux bus qui vont nous amener en centre-ville.
Ah ouais.
Puis après, il y a d'autres projets sur Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.
On a fait tout le tour, on est parti de Chaudron jusqu'au terminus de Bois-Neufle. Et là, on revient à Bancoules. C'est là qu'on va se quitter. Je vais rencontrer Guillaume Azet. Guillaume Azet était l'un des architectes qui a pensé et conçu l'ensemble des stations intermédiaires sur lequel on a pu voyager.
Voilà.
Merci Jean-Pierre.
Merci.
Guillaume Azé, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été l'un des architectes qui a conçu l'ensemble des stations intermédiaires du téléphérique. Elles ont été conçues dans un esprit bioclimatique. Ça veut dire quoi, un esprit bioclimatique à La Réunion ?
C'est très simple, c'est qu'il faut prendre en compte les caractéristiques climatiques du climat de La Réunion. Donc on est sur des zones qui sont tempérées. On est à mi-hauteur, donc il fait un petit peu moins chaud qu'au bord de la mer. Toutefois, on est soumis aux alizés qui peuvent être assez forts. On est dans une démarche tropicale que les anciennes bâtisses ont compris depuis très très longtemps. Bancoul, c'est un grand toit qui est exprimé sur la façade urbaine et fermé par du bois ajouré qui vient protéger de la pluie du soleil. Et cette grande façade permet d'avoir une ventilation permanente dans les équipements de la gare.
C'est aussi la recherche d'une empreinte énergétique la plus faible possible.
Tout à fait. Il y a aujourd'hui, à part le process, qui est un gros consommateur forcément, parce qu'il y a des éléments moteurs, après le reste, c'est un peu d'éclairage, un petit peu d'équipement technique à faire fonctionner, mais il n'y a pas de clim, il n'y a pas de chauffage.
Aujourd'hui, avec les contraintes insulaires et topographiques de l'île de La Réunion, est-ce que c'est simple de concevoir des projets éco-responsables ?
Alors forcément, on est dépendant des matériaux extérieurs parce que le gisement de matériaux locaux est très faible. Quasiment tous les matériaux sont importés. C'est une contrainte. Après, il faut aussi relativiser parce qu'on est aussi dans un monde très, très mondialisé. Et quand on construit en Franche-Comté ou n'importe où dans le monde, on s'aperçoit que les matériaux utilisés ont fait beaucoup de trajets. Alors, là où c'est possible en métropole, c'est qu'on peut fixer un cahier des charges. On impose ou on incite les prescripteurs à travailler avec des matériaux qui proviennent de la micro-région. Après, il faut faire avec. Il faut essayer de travailler avec des matériaux les plus respectueux de l'environnement, avec des niveaux de performance sur la consommation en carbone, sur la mise en œuvre, éviter les déchets de chantier. L'effort, il se fait sur toute l'acte de construire, au niveau de la conception jusqu'à la réalisation. Ce qu'on peut dire à travers les premières années d'exploitation du téléphérique, c'est tout ce que ça crée comme ville autour. On part toujours du principe que c'est, on a besoin d'un transport pour répondre à une demande, mais en fait, c'est le transport qui vient construire la ville autour de ces points d'arrêt, et ça crée des points singuliers dans lesquels la ville se développe, se crée, voire même se régénère.
La Réunion est là, La Réunion est toujours la même. La Réunion est là, pour te rayonner à nous mettre de fée. Moi dans cette langue, moi te rappelle pour premier fois moi te rentre la rayon. Dès que moi la vie dépose mon sac, puis des mots nous sans nous ça va. Ça t'est mon rêve, un jour me chante pour son un petit cigare. L'a toujours été mon destin, exprime-moi moi dans cette langue.
Jean-Jacques Elmain, je rappelle que vous êtes le délégué général de CODATU, une ONG qui accompagne depuis 40 ans les villes du Sud dans le développement de leur mobilité. Alors comment est-ce que vous réagissez à ce reportage ?
Alors, c'est un très bon exemple, puisque effectivement, on constate un peu partout dans le monde le développement de ce type de nouvelles solutions, le transport par câble urbain, le téléphérique si vous préférez, qui a des origines notamment en Amérique du Sud, mais il faut rappeler que les grands constructeurs de ce type de solutions, à l'origine, sont des industriels des stations de sport d'hiver, de la montagne. Il y a trois donc grands industriels, Poma, MND et Doppelmayr, dont les origines sont la montagne.
Et qui aujourd'hui recherchent des conversions, quoi. En fait, ils ont besoin de rebondir face à la baisse des sports d'hiver, j'imagine.
Et évidemment, c'est un nouveau marché que le transport par câble urbain. Et des villes en Amérique du Sud ont montré que ça pouvait effectivement être un atout considérable pour transformer la ville, non seulement pour apporter une solution de transport, mais aussi modifier l'urbanisme. C'est ce qu'on voit bien à Medellín, et avec un impact social important, parce que quand vous désenclavez un quartier qui était complètement enclavé, bah ça permet de lutter contre le trafic de drogue, de changer complètement les prix de l'immobilier. Donc ça a des impacts considérables, et c'est ce qu'on commence à voir aussi sur La Réunion, hein, quand le reportage montre qu'il y a un impact urbain. Et c'est vrai que les réseaux de transport offrent des solutions, mais structurent la ville. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi hyper importants pour les futures villes africaines. C'est que les réseaux de transport qu'on met en place maintenant vont structurer les villes de demain qui seront 2, 3 ou 4 fois plus étalées. Donc, c'est les villes de demain qu'on est en train de construire en plaçant des solutions de transport. Et les câbles, bah, ça fait partie du dispositif qui peuvent être mobilisés maintenant. Mais en même temps, il ne faut pas voir ça comme la solution miraculeuse. Ça peut être une composante dans un système de mobilité. Et c'est ce qu'on voit apparaître un peu partout en Afrique aujourd'hui, puisque Codatu travaille sur des plans de mobilité qui permettent de voir dans une vingtaine d'années comment développer les transports dans ces villes. Et on voit un certain nombre de villes qui prévoient la création de câbles. Je pense notamment à Douala ou à Dakar. Ça peut être des solutions soit pour passer par-dessus des obstacles, comme un fleuve, soit pour passer par-dessus des collines, soit pour désenclaver des quartiers, ou pour passer au-dessus de bidonvilles, par exemple, dans lesquelles le foncier est extrêmement complexe à gérer et on aurait du mal à faire passer les routes.
Alors, on entend dans le reportage là que c'est un succès à La Réunion, hein, 3 millions de voyageurs par an, dont 80% de fidèles. Antananarive, la capitale malgache, a inauguré récemment son téléphérique. Est-ce que c'est une bonne idée à Madagascar ?
Alors, Madagascar, la capitale, Antananarive, approche des 4 millions d'habitants. Et c'est important d'avoir quelques ordres de grandeur en tête. Les transports à Antananarive, aujourd'hui, c'est essentiellement du minibus, ce qu'on appelle le taxi B localement, c'est-à-dire du transport artisanal, qui transporte environ 1,8 million de passagers par jour. Le câble urbain à Antananarive, qui effectivement va commencer son exploitation, on est au maximum aux alentours de 40 000 passagers par jour sur un câble. Donc c'est toujours important quand on parle de solutions de mobilité d'avoir des ordres de grandeur.
Oui, ça semble un peu anecdotique du coup.
Bah, disons que ça peut être une composante, mais ce n'est pas ça qui va régler les embouteillages dans Antananarive. Voilà. C'est pour ça qu'il faut travailler sur l'ensemble des sujets. Il faut développer ce type de solution éventuellement, d'autres solutions comme le train urbain ou le BRT. Et il faut, c'est très important aussi, en même temps, d'améliorer le système de minibus qui est le système dominant et en même temps de travailler, par exemple, à Antananarive, sur améliorer la vie des piétons. Parce qu'en réalité, c'est même les piétons qui sont les plus nombreux aujourd'hui à Antananarive, comme dans beaucoup de villes africaines. Et ils ont une tendance à être un peu oubliés par tout le monde, malheureusement.
Oui, souvent, il n'y a pas de trottoir, par exemple, dans les villes.
Voilà, ou quand il y a des trottoirs, ils sont utilisés par les voitures parce que le stationnement n'est pas bien géré, ou par les marchands de rue. Donc les piétons se retrouvent sur la rue, effectivement. Donc ça, c'est quand même un sujet crucial pour Codatu, sur lequel il n'y a pas besoin de beaucoup d'investissements et qui pourrait améliorer très fortement la vie quotidienne des gens. Avant même d'améliorer ou de créer des nouvelles infrastructures, il y a ces sujets essentiels de la mobilité piétonne, sur lesquels il faut travailler. Et d'ailleurs, les bailleurs internationaux, comme l'Agence française de développement, développent de plus en plus des programmes pour l'amélioration des piétons. C'est le cas, par exemple, à Antananarive, justement, où l'AFD a mis en place un financement de 10 millions d'euros pour réaliser des trottoirs et améliorer la vie des piétons.
Alors, puisque vous parlez des bailleurs, parlons du financement. Ces métrocâbles, cela coûte assez cher. Derrière, il y a des enjeux de maintenance. Alors, évidemment, j'imagine que le schéma idéal, c'est que le prix du ticket paye tout cela, mais c'est compliqué. Par exemple, à La Réunion, cela marche parce que le métrocâble est subventionné. C'est peut-être plus compliqué, et certainement même pour des pays avec moins de moyens.
Alors tout à fait, ça c'est un point absolument crucial dans l'expérience de Codatu depuis plusieurs décennies, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a déjà deux sujets, il y a l'investissement et ensuite il y a l'exploitation. Donc l'investissement, on arrive à trouver des solutions maintenant, même dans les pays très pauvres. À Madagascar par exemple, le câble c'est 150 millions d'euros, c'est un financement d'origine française. Mais c'est courant d'avoir des investissements de plusieurs centaines de millions d'euros, voire en milliards d'euros dans les grandes infrastructures de transport urbain. Ça, c'est un sujet, l'investissement. Mais en réalité, la grande difficulté, c'est le fonctionnement. C'est qu'à La Réunion, en France et dans tous les pays anciennement urbanisés, les transports en commun sont fortement subventionnés. Quand vous payez le ticket en France, en général, d'un transport en commun, vous ne payez que un tiers à la moitié du prix réel, parce que le reste, c'est de la subvention publique. Or, dans des pays, dans beaucoup de pays africains, il n'existe pas de solution de subventionnement des transports en commun. Et c'est pour ça que beaucoup de sociétés de bus, par exemple, se sont effondrées en Afrique de l'Ouest. On peut citer le cas de Niamey, de Ouagadougou, de Douala et de nombreuses autres villes, parce que les subventions publiques n'arrivaient pas ou alors de manière trop aléatoire. Donc les sociétés de bus ne pouvaient pas tenir. Donc il faut bien avoir ça en tête et ne créer des systèmes que si on sait qu'ils vont être correctement financés en fonctionnement.
Et alors vous suggérez une idée qui est de rétablir ou d'instaurer des vignettes pour les personnes qui roulent en voiture et peut-être de faire payer ces vignettes au prorata de la puissance de la voiture pour maintenir une notion de justice sociale.
Voilà, une solution préconisée par Codatu dans un certain nombre de pays africains notamment, comme c'est le cas ailleurs dans le monde. C'est une politique vertueuse, c'est-à-dire, puisque en général les États n'ont pas les moyens directement de subventionner les transports en commun, c'est de faire payer les voitures individuelles qui tireront profit de l'amélioration de la fluidité, puisqu'il y aura moins d'embouteillages si les transports en commun fonctionnent mieux, donc ça sera profitable aussi pour les propriétaires de voitures individuelles, mais qui financeront une partie du système de transport en commun. Ça, c'est une politique vertueuse du point de vue Codatu, qui peut dégager des moyens, alors dans les grandes villes, au moins en tout cas, importants, permettant de subventionner les transports en commun correctement.
Et limiter peut-être le recours à la voiture, parce que nous rappelons que toute cette discussion, vous l'avez évoquée, est aussi dans le contexte du changement climatique et des pollutions qu'émettent tous ces véhicules. Donc il y a des enjeux de santé publique et des enjeux de climat très importants aussi autour de ces enjeux de transport.
Évidemment, tout ce qui peut contribuer à limiter le taux de motorisation, c'est-à-dire la propriété individuelle de voitures, ça va dans le bon sens. Tout ce qui peut inciter les gens à prendre les transports en commun ou à rester à pied ou à vélo. Donc ce sont un vaste champ de politiques publiques qu'il faut mettre en place. Alors la vignette automobile, ce n'est pas la seule solution possible d'ailleurs. Il existe toute une palette d'autres possibilités. Ça dépend de chaque cas, mais c'est une bonne illustration de ce qu'il est possible de faire.
Et puis bon, il faut mentionner au passage que les villes africaines travaillent les unes avec les autres pour apprendre de leurs expériences respectives, avec la création notamment et le développement de l'Association africaine des autorités organisatrices de la mobilité que vous accompagnez aussi avec Codatu. Merci beaucoup Jean-Jacques Helouin d'avoir participé à cette émission.
Merci, à bientôt.
Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à partager nos podcasts à partir de l'application Pure Radio et à communiquer avec nous sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.